Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Γαλλική γλώσσα.
Επίπεδο Γ1 και Γ2. Έναρξη της εξέτασης.
Activité 1. Lisez la consigne. Lisez les hypothèses. Écoutez.
Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez écrit à la main, la dernière fois où vous avez saisi un stylo et noirci une feuille de papier? C'est Pascal Crémer qui nous pose la question dans les colonnes du Monde, dossier de 3 pages, consacré donc à l'écriture manuscrite, laquelle tend à disparaître au profit du tout numérique. Mis à part pour une liste de courses ou alors pour signer un chèque, il en est qui n'utilisent plus jamais de stylo. L'été, on écrit quasiment plus de cartes postales, et même les vœux, les félicitations, les joyeux anniversaires, voire les condoléances, sont expédiés par courrier ou SMS, plus rapide, plus facile, de moins en moins de bloc-notes. Lors des réunions en entreprise, on se présente avec sa tablette, sous peine de passer pour un rétrograde, et à la fac, les étudiants suivent les cours avec leur ordinateur portable. C'est la vie, c'est le progrès, disent certains, mais d'autres s'alarment. Car faire des pleins et des déliés, c'est bon pour le fonctionnement des méninges. Ils se demandent même si l'écriture manuscrite ne sera pas bientôt réservée à une élite.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez écrit à la main, la dernière fois où vous avez saisi un stylo et noirci une feuille de papier? C'est Pascal Crémer qui nous pose la question dans les colonnes du Monde, dossier de 3 pages, consacré donc à l'écriture manuscrite, laquelle tend à disparaître au profit du tout numérique. Mis à part pour une liste de courses ou alors pour signer un chèque, il en est qui n'utilisent plus jamais de stylo. L'été, on écrit quasiment plus de cartes postales, et même les vœux, les félicitations, les joyeux anniversaires, voire les condoléances, sont expédiés par courrier ou SMS, plus rapide, plus facile, de moins en moins de bloc-notes. Lors des réunions en entreprise, on se présente avec sa tablette, sous peine de passer pour un rétrograde, et à la fac, les étudiants suivent les cours avec leur ordinateur portable. C'est la vie, c'est le progrès, disent certains, mais d'autres s'alarment. Car faire des pleins et des déliés, c'est bon pour le fonctionnement des méninges. Ils se demandent même si l'écriture manuscrite ne sera pas bientôt réservée à une élite.
Activité 2. Lisez la consigne. Lisez les hypothèses. Écoutez.
Eh bien aujourd'hui, je vais vous raconter les voyages de la pomme d'or, ou si vous préférez, de la pomme d'amour.
Alors de quoi il s'agit?
Eh bien tout simplement du légume qui, après la pomme de terre, est le plus consommé en France, comme dans l'ensemble du monde, la tomate.
Cette tomate, elle vient d'où alors?
Elle vient pas de l'Antarctique, non, non, ouais. Mais elle vient d'Amérique, de ce nouveau monde qu'ont découvert des grands aventuriers, les conquistadors. Alors en 1519, une poignée d'Espagnols débarquent sur les rives du golfe du Mexique. Ils y rencontrent les Aztèques et les petits petits fruits orangés que ces derniers cultivent depuis des millénaires.
Donc on peut dire que tout a commencé au Mexique ?
Alors oui et non, parce que les ancêtres sauvages de la tomate ne poussaient pas au Mexique, mais plus au sud, dans les vallées côtières de la Colombie, de l'Équateur, du Pérou, du nord du Chili. Et ces tomates sauvages étaient vraiment très petites, elles n'étaient pas plus grosses qu'une cerise. Certains botanistes pensent que des graines auraient pu être transportées par les vents ou par les oiseaux jusqu'au Mexique, où les paysans locaux auraient remarqué dans leurs champs la présence d'une nouvelle plante, une plante qui donnait des fruits ressemblant à ceux du physalis qu'ils cultivaient. Les paysans aztèques ont alors goûté les nouveaux petits fruits tombés du ciel, ils les ont appréciés et ils ont décidé de les cultiver.
Alors revenons au conquistador. Est-ce qu'une fois découverte, la tomate parvient rapidement sur les tables du royaume d'Espagne ?
Eh bien non, les premiers Européens à manger des tomates ne furent pas les Espagnols, mais les Italiens du Sud.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
Eh bien aujourd'hui, je vais vous raconter les voyages de la pomme d'or, ou si vous préférez, de la pomme d'amour.
Alors de quoi il s'agit ?
Eh bien tout simplement, du légume qui, après la pomme de terre, est le plus consommé en France, comme dans l'ensemble du monde, la tomate.
Cette tomate, elle vient d'où alors ?
Elle vient pas de l'Antarctique, non, non, mais elle vient d'Amérique, de ce nouveau monde qu'ont découvert des grands aventuriers, les conquistadors. Alors en 1519, une poignée d'Espagnols débarquent sur les rives du golfe du Mexique, ils y rencontrent les Aztèques et les petits fruits orangés que ces derniers cultivent depuis des millénaires.
Donc on peut dire que tout a commencé au Mexique ?
Alors oui et non, parce que les ancêtres sauvages de la tomate ne poussaient pas au Mexique, mais plus au sud, dans les vallées côtières de la Colombie, de l'Équateur, du Pérou, du nord du Chili. Et ces tomates sauvages étaient vraiment très petites, elles n'étaient pas plus grosses qu'une cerise. Certains botanistes pensent que des graines auraient pu être transportées par les vents ou par les oiseaux jusqu'au Mexique, où les paysans locaux auraient remarqué dans leurs champs la présence d'une nouvelle plante, une plante qui donnait des fruits ressemblant à ceux du physalis qu'ils cultivaient. Les paysans aztèques ont alors goûté les nouveaux petits fruits tombés du ciel, ils les ont appréciés et ils ont décidé de les cultiver.
Alors revenons au conquistador. Est-ce qu'une fois découverte, la tomate parvient rapidement sur les tables du royaume d'Espagne ?
Eh bien non, les premiers Européens à manger des tomates ne furent pas les Espagnols, mais les Italiens du Sud.
Activité 3. Lisez la consigne. Item 7A. Écoutez.
L'émission que vous allez entendre dans un instant est un périple musical sur les traces du romantisme cher à Victor Hugo. L'écrivain, qui était aussi, à ses heures perdues, dessinateur et s'était inspiré des paysages de vestiges de vieux châteaux.
Item 8A. Écoutez.
Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, les médecines alternatives plébiscitées par les Français et parmi elles, l'homéopathie. 72% des patients y croient quand les médecins, eux, sont beaucoup plus méfiants.
Item 9A. Écoutez.
Le contrôle fiscal a-t-il été plus efficace en 2019 qu'en 2018 ? Les services de Bercy ont recouvré 1,3 milliard d'euros supplémentaires l'an dernier par rapport à l'exercice précédent, une hausse de 16%.
Item 10A. Écoutez.
Et on commence ce journal avec le premier test de déviation d'astéroïdes en conditions réelles.
Les risques qu'un astéroïde percute la Terre sont très faibles, mais ils existent. La NASA et l'Agence spatiale européenne lancent donc la mission DART ERA.
Écoutez encore une fois les items et complétez vos réponses. Item 7A. Écoutez.
L'émission que vous allez entendre dans un instant est un périple musical sur les traces du romantisme cher à Victor Hugo. L'écrivain, qui était aussi, à ses heures perdues, dessinateur et s'était inspiré des paysages de vestiges de vieux châteaux.
Item 8A. Écoutez.
Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, les médecines alternatives plébiscitées par les Français et parmi elles l'homéopathie. 72% des patients y croient quand les médecins, eux, sont beaucoup plus méfiants.
Item 9A. Écoutez.
Le contrôle fiscal a-t-il été plus efficace en 2019 qu'en 2018 ? Les services de Bercy ont recouvré 1,3 milliard d'euros supplémentaires l'an dernier par rapport à l'exercice précédent, une hausse de 16%.
Item 10A. Écoutez.
Et on commence ce journal avec le premier test de déviation d'astéroïdes en conditions réelles.
Les risques qu'un astéroïde percute la Terre sont très faibles, mais ils existent. La NASA et l'Agence spatiale européenne lancent donc la mission DART ERA.
Activité 4. Lisez la consigne. Lisez les hypothèses. Écoutez.
Quand la Commission européenne veut proposer une nouvelle législation, elle ouvre une consultation publique, et c'est le cas pour cette question d'eau potable. L'objectif est de voir s'il faut réviser la directive de 1998 sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. L'originalité de la démarche est qu'elle provient d'une demande des citoyens. Dans le cadre de l'initiative citoyenne européenne, l'ICE, introduite par le traité de Lisbonne et qui permet de réclamer une nouvelle législation, 1 600 000 personnes ont signé une pétition pour demander que la gestion des eaux échappe à la libéralisation et que tous les Européens boivent une eau saine et en quantité suffisante.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
Quand la Commission européenne veut proposer une nouvelle législation, elle ouvre une consultation publique, et c'est le cas pour cette question d'eau potable. L'objectif est de voir s'il faut réviser la directive de 1998 sur la qualité des eaux destinée à la consommation humaine. L'originalité de la démarche est qu'elle provient d'une demande des citoyens. Dans le cadre de l'initiative citoyenne européenne, l'ICE, introduite par le traité de Lisbonne et qui permet de réclamer une nouvelle législation, 1 600 000 personnes ont signé une pétition pour demander que la gestion des eaux échappe à la libéralisation et que tous les Européens boivent une eau saine et en quantité suffisante.
Activité 5. Lisez la consigne. Lisez les hypothèses. Écoutez.
La France, comme beaucoup d'autres pays européens, s'engage vers une transition énergétique où les énergies renouvelables seront développées. Ces renouvelables, le solaire ou l'éolien par exemple, occupent déjà une place dans la consommation énergétique des pays européens. Leur part est en hausse. Entre 2004 et 2012, elle a augmenté dans les 28 pays de l'Union européenne et pendant toute cette période, elle est passée de 8 à 14% en moyenne européenne. Mais derrière cette moyenne, il y a des variantes ou des écarts. La plus forte proportion est en Suède. L'énergie consommée vient à 51% des renouvelables. Elle est de plus d'un tiers en Lettonie, en Finlande ou en Autriche, tandis qu'au Luxembourg, à Malte, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, les résultats sont plus faibles, moins de 5% de la consommation d'énergie.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
La France, comme beaucoup d'autres pays européens, s'engage vers une transition énergétique où les énergies renouvelables seront développées. Ces renouvelables, le solaire ou l'éolien par exemple, occupent déjà une place dans la consommation énergétique des pays européens. Leur part est en hausse. Entre 2004 et 2012, elle a augmenté dans les 28 pays de l'Union européenne et pendant toute cette période, elle est passée de 8 à 14% en moyenne européenne. Mais derrière cette moyenne, il y a des variantes ou des écarts. La plus forte proportion est en Suède. L'énergie consommée vient à 51% des renouvelables. Elle est de plus d'un tiers en Lettonie, en Finlande ou en Autriche, tandis qu'au Luxembourg, à Malte, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, les résultats sont plus faibles, moins de 5% de la consommation d'énergie.
Activité 6. Lisez la consigne. Lisez les hypothèses. Écoutez.
Mathieu, ce matin dans l'édito carré, un poisson réussit pour la première fois le test du miroir.
Oui, les scientifiques qui ne sont jamais à court d'idées pour tester l'intelligence des animaux viennent donc d'ajouter un petit poisson à la liste des bestioles capables de se reconnaître dans un miroir. Ce test mis au point dans les années 70 par le psychologue américain Gordon Gallup vise donc à comparer les aptitudes de différentes espèces à avoir conscience d'elles-mêmes. Et pour cela, les expérimentateurs placent subrepticement sur la tête de l'animal une marque colorée qu'il ne peut pas voir en vision directe. bête. La bête ainsi affublée est installée devant une glace. Alors si l'animal manifeste des mouvements inhabituels ou qu'il tente de retirer la marque, c'est qu'il a pigé que l'image dans le miroir était la sienne. Mais les résultats ont souvent été décevants. Et parmi les rares espèces ayant réussi, citons l'éléphant d'Asie, le dauphin, le cochon, la pie et bien sûr quelques primates comme le chimpanzé ou le gorille. Nos chiens et nos chats, eux, s'en fichent complètement.
Et donc cette fois-ci, c'est un poisson qui a passé le test avec succès.
Oui, il s'agit du labre nettoyeur commun, un petit poisson très sympa des mers tropicales. C'est un peu le bon copain qui rend service aux gros poissons en les débarrassant de leurs parasites et de leur peau morte.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
Mathieu, ce matin dans l'édito carré, un poisson réussit pour la première fois le test du miroir.
Oui, les scientifiques qui ne sont jamais à court d'idées pour tester l'intelligence des animaux viennent donc d'ajouter un petit poisson à la liste des bestioles capables de se reconnaître dans un miroir. Ce test mis au point dans les années 70 par le psychologue américain Gordon Gallup vise donc à comparer les aptitudes de différentes espèces à avoir conscience d'elles-mêmes. Et pour cela, les expérimentateurs placent subrepticement sur la tête de l'animal une marque colorée qu'il ne peut pas voir en vision directe. La bête ainsi affublée est installée devant une glace. Alors si l'animal manifeste des mouvements inhabituels ou qu'il tente de retirer la marque, c'est qu'il a pigé que l'image dans le miroir était la sienne. Mais les résultats ont souvent été décevants et parmi les rares espèces ayant réussi, citons l'éléphant d'Asie, le dauphin, le cochon, la pie et bien sûr quelques primates comme le chimpanzé ou le gorille. Nos chiens et nos chats, eux, s'en fichent complètement.
Et donc cette fois-ci, c'est un poisson qui a passé le test avec succès.
Oui, il s'agit du labre nettoyeur commun, un petit poisson très sympa des mers tropicales, c'est un peu le bon copain qui rend service aux gros poissons en les débarrassant de leurs parasites et de leur peau morte.
Activité 7. Vous allez écouter les items une seule fois. Lisez la consigne. Item 1B. Écoutez.
Le matin, dans le gymnase, c'est préparation physique pour les filles. À côté, dans la salle d'escrime, c'est leçon technique pour les garçons.
Item 2B. Écoutez.
Quand je suis dans la classe, par exemple, je vais vérifier si tout le monde a le bon crayon, je vais passer aider à sortir le bon cahier, ouvrir à la bonne page.
Item 3B. Écoutez.
Je m'occupe d'animaux de compagnie, principalement des chiens, des chats et parfois aussi ce qu'on appelle des NAC, les nouveaux animaux de compagnie, donc des lapins, des cochons d'Inde ou des hamsters. Je suis également spécialisée en ostéopathie et en acupuncture pour les animaux de compagnie.
Item 4B. Écoutez.
Eh bien voilà, donc je viens de finir cette interview et là j'ai reçu un appel pour me dire qu'on pouvait avoir une deuxième interview, ce qui est très chouette vu que dans un reportage, quand on a plusieurs interviews, bien c'est plus enrichissant et c'est plus varié aussi.
Item 5B. Écoutez.
porter assistance aux personnes, intervenir pour des conflits familiaux ou de voisinage, patrouiller pour lutter contre la délinquance et sécuriser les accidents sur la voie publique font partie de mes missions.
Activité 8. Vous allez écouter le texte sonore une seule fois. Lisez la consigne. Lisez les 5 items. Écoutez.
Le sport est encore un terrain à conquérir pour les femmes ?
Oui, tout à fait. Je crois que c'est un combat de longue haleine parce qu'aujourd'hui, on représente encore 38% de pratiquantes licenciées aujourd'hui dans le sport. Nous avons aujourd'hui une seule femme présidente de fédération olympique. Donc, on voit bien combien le chantier est grand, voilà, et que c'est une conquête de tous les temps.
Alors, est-ce que l'on peut promouvoir le sport féminin sans être taxé pour autant de féministes ?
Oui, je pense, voilà, parce que on prône d'abord avant tout l'égalité et la mixité dans le sport. Je crois que c'est un enjeu important de cette égalité dans le sport, puisque encore aujourd'hui, on n'a pas tout à fait une égalité parfaite et on prône cette égalité pour justement aller vers des épreuves mixtes, notamment sur les Jeux Olympiques. De plus en plus, chaque discipline présentera une épreuve mixte.
Alors Marie-Françoise Potereau, ceux qui ne vous connaissent pas, il manque un vélo à côté de vous pour vous remettre dans l'histoire du sport. Vous êtes coureur, coureuse, cycliste et vous êtes la première femme à être devenue entraîneur.
Τέλος της εξέτασης. Καλή επιτυχία!